Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un homme qui peut nous illuminer grâce aux différentes énergies autour de nous. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine. Version homme.
Mundir Nebar, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma version homme de femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Mundir?
Très très bien. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation et c'est avec un vrai plaisir que je vais participer à cet exercice.
Merci infiniment, Mundir, justement. Ce qu'on sait de vous, c'est que vous êtes un pro des énergies responsables et des énergies vertes. Et aussi, vous êtes en quelque sorte, un pro de l'énergie humaine. Qu'est-ce qui est venu avant l'autre ?
Clairement, c'est l'énergie humaine. Souvent, je dis que je travaille sur l'énergie interne comme je travaille sur l'énergie externe. Car ce qui se passe à l'extérieur de nous n'est que le reflet de ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc clairement, tout ce chemin a commencé par un sentiment interne fort de quête, de chemin qui s'est ouvert à un très jeune âge, vers l'âge de 6-7 ans, une prise de conscience de ma propre conscience et de son cheminement dans l'univers.
Mais à l'école, justement, ça se passait comme ça. C'est-à-dire, à l'école, est-ce que vous aviez des amis? Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est aussi la période où on parle beaucoup d'harcèlement scolaire. Et donc, le fait d'être différent, particulier, c'est pas évident pour un enfant.
C'est pas évident. Ça n'a pas été évident pour moi, mais c'est quelque chose que j'ai plutôt bien géré. Parce que à l'intérieur de moi, j'avais des convictions très fortes. Vous savez, quand on a une foi et des convictions qui sont fortes, les perturbations, les harcèlements extérieurs vous touchent moins. Parce qu'au fond de vous-même, vous savez que qui vous êtes et quelles sont vos valeurs.
Tout ça, je le comprends d'un point de vue et d'un regard de l'adulte que je suis aujourd'hui pour un autre adulte. Mais est-ce qu'un enfant peut être comme ça? C'est quand même assez particulier.
Écoutez, il y a autant d'êtres particuliers qu'il y a d'êtres humains sur Terre.
C'est vrai.
On a 8 milliards de planètes au sein de notre propre planète.
Ouais.
Et chacun de nous est entièrement différent. Donc on ne peut pas juger et dire que celui-là est plus spécial que l'autre. Nous arrivons tous avec une tonalité, une couleur qui nous est propre. Et c'est avec cette tonalité, c'est comme une note de musique avec laquelle on joue. Ben, on joue le jeu de la vie et chacun de nous, et c'est ce qui fait la beauté de l'être humain. Sinon, la vie n'aurait pas de sens si nous n'étions pas tous aussi différents.
Absolument. C'est tellement sage, tellement bien dit. Alors justement, vous avez lancé votre boîte Gaïa en 2008, spécialisée dans les énergies vertes. Ça a été avant l'accompagnement des autres, avant ce que vous appelez l'enseignement spirituel?
En fait, j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur à 17 ans. Donc, j'ai eu mon baccalauréat en poche. Mes parents étaient contents. J'ai fait mon bac S. Et puis, j'ai envoyé balader un peu tout le monde et j'ai fait ce que je voulais faire. Et l'école, ce n'était pas trop pour moi. Je suis quelqu'un qui est complètement autodidacte dans tout ce qu'il fait. À tout ce que vous voyez de moi, ce sont des choses que j'ai apprises par moi-même. Et du coup, j'ai monté ma première entreprise à 17 ans et j'en ai monté beaucoup entre Gaïa, le moment de Gaïa et mes 17 ans, avec beaucoup d'échecs, beaucoup d'apprentissages, beaucoup de secteurs différents. Donc en moi réside, on va dire aussi, un esprit entrepreneurial qui est très très fort. Et en parallèle, l'enseignement se faisait de façon très discrète et très, on va dire, sporadique. Car je n'avais pas à l'époque encore, si vous voulez, j'avais une fausse croyance à l'intérieur de moi qui me disait que je ne pouvais pas être entrepreneur d'un côté, et donc dans le business, comme on le dit, dans les affaires, dans le monde du travail, et en même temps être perçu comme une forme d'enseignant un peu loufoque. Et du coup, cette fausse croyance m'a bloqué pendant très longtemps et je me suis freiné jusqu'à l'âge, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'en 2018. J'ai gardé tout ça pour moi et quelquefois j'organisais des événements sur l'éveil de la conscience, la spiritualité, où je faisais intervenir d'autres intervenants, mais pas moi. Et en fait, ces deux mondes ont toujours cohabité. Et puis un jour, l'univers m'a ouvert une porte et j'ai réalisé que les deux, au contraire, étaient parfaitement compatibles. Et cette croyance en moi s'est éteinte et j'ai pu aussi ouvrir ce chapitre de ma vie. Et aujourd'hui, je peux vous dire, et j'en suis moi-même très surpris le premier, c'est que chacun des mondes nourrit l'autre. Et ils fonctionnent très, très bien ensemble.
Alors, aujourd'hui, il y a aussi cette grande ouverture des gens, notamment des Marocains, sur ces disciplines-là, sur l'importance de se faire accompagner, de se nourrir, d'aller à la découverte de soi, de lutter contre ses idées reçues, etc. Mais 10 ans en arrière, où c'était peut-être déjà existant dans d'autres pays, notamment aux États-Unis ou autres, mais pas encore vraiment au Maroc, est-ce que vous auriez pu le faire ? Est-ce que, donc, il y avait la croyance à l'intérieur de vous que ce n'était pas faisable, mais il y avait peut-être aussi pas l'environnement pour, l'acceptation pour.
Je pense qu'il y a toujours une prédisposition au Maroc. Nous sommes un peuple très ouvert. Nous sommes un peuple aussi très léger. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que on s'ouvre facilement. Hein. Si vous prenez moi j'ai vu ça dans la musique d'abord parce que je suis musicien et que j'ai fait beaucoup de. J'ai un univers musical qui est, on va dire, très très large. J'ai remarqué très jeune que le Marocain rentrait très facilement en transe. Vous pouvez mettre n'importe quelle musique, le Marocain va très facilement rentrer dans la musique et s'oublier. Ça, c'est une capacité qui est très précieuse qu'on ne retrouve pas chez les Occidentaux. Donc il y a une facilité, si vous voulez, de s'ouvrir, une facilité de rentrer dans l'énergie, dans le flow. Donc je pense qu'elle a toujours été là, cette ouverture. D'ailleurs, notre histoire le prouve par notre histoire soufie notamment, où nous avions un islam qui était très ouvert, très mystique, très, on va dire, universel. Et ça a toujours été là. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé cet exercice d'enseigner, ma première conférence, mon premier workshop était sur l'alimentation et donc j'ai touché à des sujets assez délicats comme la viande hein, qui est quasi religieuse on va dire et je m'attendais à ce qu'au moins 30 ou 40% de la salle et il y avait 80 personnes se lèvent et s'en aillent et personne ne s'est jamais levé, personne ne s'est jamais en allé depuis maintenant j'ai peut-être fait une centaine de conférences de retraite et de workshops j'ai jamais eu une mauvaise réaction juste pour vous dire. Et ça, je trouve ça miraculeux presque, parce que je touche à des sujets qui sont, on va dire, très cristallisés, quelquefois même très chauds. Et je suis agréablement surpris tous les jours de l'ouverture d'esprit des Marocains.
Alors, vous avez dit justement, les Marocains, nous sommes un peuple léger de par cette capacité d'ouverture, d'aller dans d'autres, d'aller très vite en transe, etc. C'est vrai, vous avez raison. En même temps, c'est des choses pour lesquelles nous n'avions pas l'habitude de payer. Aujourd'hui, on paye pour ça.
Oui,
c'est de sûr. Cette prédisposition 10 ans en arrière dont je parle aujourd'hui, c'est entré dans les mœurs. C'est-à-dire, on va à la recherche de ces états-là à travers des retraites, des formations, des séminaires, etc. Et on sait qu'on paye pour ça. On paye pour son bonheur, en quelque sorte. On paye pour aller en soi.
Effectivement, vous avez raison, mais ça, c'est une tendance mondiale.
Absolument.
Au Maroc. Et en fait, elle est complètement, si vous voulez, elle fait miroir à aussi l'état de développement des pays. Et aujourd'hui, 99% des Marocains ont l'électricité. Il y a 20 ans, il y avait 50%. Donc, vous voyez l'évolution,
absolument.
Le boom, en fait.
Le boom, et c'est ce boom aussi qui a coïncidé avec votre propre éclosion à vous, c'est-à-dire avec votre propre acceptation. Voilà, ça se serait fait...
Bien sûr, vous savez,
voilà.
Vous savez, même dans le business, on dit souvent, on parle de time to market.
Oui, absolument.
Et dans la conscience aussi, on dit la même chose.
Oui.
Chaque chose arrive au bon moment.
Absolument.
Donc,
Absolument.
Ça, c'est une loi universelle, hein, c'est clairement.
Tout à fait. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, quand j'étais enfant, j'étais très solitaire jusqu'à l'âge de 14 ans. Vous étiez vraiment, vous l'avez dit, vous viviez en ermite, et pour un enfant, c'est particulier. Mais comme vous l'avez dit, nous sommes 8 milliards de planètes sur notre planète. Donc, en effet, ça donne une autre perspective à ce que vous dites. On ne peut pas juger. Quand on ne comprend pas, on ne juge pas. Aujourd'hui, est-ce que, c'est vrai, vous travaillez beaucoup, vous faites beaucoup de choses, vous êtes dans deux domaines qui peuvent sembler différents, mais vous dites qu'ils se rejoignent complètement, donc vous rencontrez beaucoup de monde professionnellement. Mais maintenant, Mundiz Nebar avec lui-même, est-ce qu'il se sent solitaire ou les choses ont changé?
Les choses n'ont pas vraiment changé et je peux, pour vous dire la vérité, je ressens de plus en plus le besoin de solitude, car c'est dans la solitude aussi que je retrouve une forme de ressourcement, d'inspiration, de créativité. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours, j'ai clôturé la page de mon premier livre d'écriture. J'ai écrit 200 pages en l'espace d'un mois et demi. Et ces 4-5 heures de solitude dans l'écriture m'ont énormément nourri. C'est quelque chose qui est, je pense, dans l'architecture de ma propre conscience et de mon être. La solitude fait partie, quelque part, de mes besoins primordiaux. Elle me permet de me retrouver, de faire le point, de me ressourcer, de revenir à l'essentiel, de revenir au souffle, à la conscience, à qui je suis, à comment je réagis. Et je peux dire que je pourrais dire aussi que c'est essentiel pour tout le monde. Car si on n'accepte pas ces moments de solitude, on ne peut pas revenir à soi pour s'améliorer dans le quotidien, pour devenir une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes. Parce que si on ne prend pas conscience de notre monde émotionnel, de nos schémas mentaux, hein, de nos souffrances, de nos peurs, de nos croyances, de nos conditionnements, il n'y a que dans la solitude et le retrait qu'on peut voir ces couches, ces reliefs. C'est très dur sinon. On peut le voir aussi bien sûr en travaillant avec un thérapeute, mais la solitude, elle est nécessaire à un moment ou à un autre, il faut l'accepter. Donc c'est ce mouvement permanent, je dirais, entre sa propre solitude et cette partie de soi qui interagit avec le monde, c'est cet équilibre qu'il faut trouver pour tout le monde. Alors certains vont avoir besoin de beaucoup moins et d'autres de beaucoup plus.
Donc ce n'était pas une solitude subie à l'enfance?
Non, du tout.
Voilà. Alors, tout ça, je le comprends. Maintenant, est-ce que ça laisse la place à d'autres personnes dans votre vie? Parce qu'il y a le temps, si on devait diviser une journée, eh bien, il y a le moment de solitude qui est nécessaire, qui est un besoin vital pour vous. Il y a le moment de travail, où vous êtes avec les autres, vous n'êtes pas dans une sphère privée, il y a le moment de sommeil. Est-ce que ça laisse de la place à d'autres personnes dans votre vie?
Oui, écoutez, tout est une question d'organisation, votre question est très pertinente. Et d'ailleurs, c'est un jeu d'équilibriste qui est pas évident. Et pour ma part, et je peux partager cet exemple pour l'auditoire, j'ai repéré plus ou moins tous les personnages à l'intérieur de moi que j'avais besoin de nourrir.
Vous avez dit, vous êtes autodidacte depuis l'âge de 17 ans. Donc tout ce que vous avez monté, vous l'avez découvert, étudié seul. Vous n'êtes pas allé dans une école, dans une université. Vous avez monté beaucoup de projets avant Gaïa. Maintenant, quand on monte ces projets, qu'on est autodidacte, qu'on est au Maroc, qu'on n'est pas aux États-Unis, où cette notion d'autodidacte est bien ancrée, ici, les gens ont besoin de repères. C'est-à-dire, quand on est dans l'entrepreneuriat, j'imagine qu'on a besoin de financement, on a besoin de prêts de la banque, etc. Et donc, on a aussi besoin parfois d'associés. Bref, on a besoin d'avoir la confiance des autres. Et la confiance des autres, elle se gagne aussi grâce à des éléments tangibles, comme un diplôme, comme la renommée d'une institution où on a étudié, etc. Vous avez fait comment sans ces choses-là?
En fait, moi, c'est ma curiosité qui m'a nourri. C'est vraiment la curiosité et la passion sur les sujets.
Ça, je le comprends parfaitement. Mais comment vous avez fait, comment le marché vous a fait confiance?
Je ne sais pas si le marché me fait vraiment confiance. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la première clé, c'est d'avoir une confiance absolue en soi-même. Ça, c'est indispensable. Si cette confiance-là, elle n'est pas solide comme un roc, ça ne peut pas marcher. Il faut avoir une très grande confiance en soi et il faut travailler très, très, très dur. Il n'y a pas de secret. Et en fait, tout ce que j'ai appris sur le terrain, je ne l'aurais jamais appris à l'école. Il n'y a aucune école qui pourrait vous l'apprendre, hein, c'est impossible. Vivre les choses, les expérimenter, se casser la gueule, se relever, retomber, se relever, affronter tous les problèmes qu'on n'aurait jamais imaginés, c'est là qu'on grandit et qu'on apprend. À l'école, c'est la théorie. Vous pouvez faire les meilleures études du monde et être un piètre entrepreneur. L'un n'est pas, si vous voulez, n'est pas lié. L'entrepreneur, c'est celui
Oui.
qui a cette dimension. D'ailleurs, vous le voyez très bien. Comme vous étiez, même au Maroc, hein, et partout dans le monde, les entrepreneurs qui réussissent le mieux souvent ne sont pas allés à l'école. Justement parce qu'ils n'ont pas été formatés pour devenir des cadres qui rentrent bien dans des cases, etc. C'est un profil.
Ça, je vous suis parfaitement. Mais en face, vous avez, j'imagine, vous avez dû embarquer des gens avec vous dans vos projets, dans vos idées.
Ah oui, tout à
Voilà,
fait.
c'est ça. Et en
Mais si on n'est pas passionné, si on n'est pas passionné par nos sujets, on ne peut pas embarquer les gens.
Mais les gens, pour être embarqués, ils ont besoin de confiance. Et en général, cette confiance se construit aussi à travers des éléments concrets. Un diplôme, une formation, voilà. C'est-à-dire,
Non,
non,
pas
pas forcément,
forcément.
pas forcément.
Non, pas forcément. C'est à quel point vous croyez dans votre projet. Vous savez, un interlocuteur, il vous sent. Si vous arrivez que votre projet vous habite et vous habitez votre projet et que ça transpire lorsque vous parlez, on sent cette passion, cette maîtrise aussi. Hein. Souvent, c'est ce qu'on me dit. On m'a très dit, on m'a souvent répété ça. On sent que tu maîtrises ton sujet. Ça, c'est super important. C'est la confiance. Vous comprenez? Donc,
Absolument.
si votre sujet vous habite et que vous maîtrisez à 100% le moindre recoin de votre projet, de vos idées, c'est beaucoup plus fort qu'un diplôme. C'est ça
Et
que
on
les
ne
gens
dit pas,
retiennent.
mais il sort d'où? Ok, très bien, il a de bonnes idées, mais il sort d'où?
Oui, c'est possible, mais pas forcément, non. Non, moi, personnellement, j'ai recruté beaucoup de gens dans mes entreprises qui n'avaient aucun diplôme en lien avec l'activité qu'ils ont gérée par la suite. C'est plutôt les valeurs, les qualités humaines. Hein, c'est ça qui est important, c'est
Oui.
de la confiance. Et puis, surtout, comment est-ce que la personne se comporte face à l'imprévu? Ça, c'est très important, parce
Absolument, mais
que
ça,
l'imprévisible.
vous le découvrez avec ces personnes que vous avez recrutées une fois sur le terrain. Moi, vraiment,
Mais ça se ressent.
ça se ressent. Mais moi, ce qui reste
Ouais.
vraiment assez particulier pour moi, c'est comment, et ce qui est rare dans notre contexte, et pourquoi? Parce que en général, comme on vient de dire, on a besoin en fait d'être rassuré quand on embarque des gens avec soi. Enfin, que ce soit les banques, que ce soit les associés, que ce soit des investisseurs, que ce soit voilà, ces gens-là ont besoin de savoir où y mettre les pieds. Donc, au-delà de la croyance que vous avez dans vos projets, je ne parle pas d'aujourd'hui où votre nom est construit, mais avant, lorsque vous avez commencé. C'est ça qui m'intéresse, c'est comment vous avez réussi à embarquer avec
Alors,
vous.
encore une fois, ça c'est une croyance hein, que la société qui est bien ancrée dans la société et du coup elle joue son rôle et les gens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'études. Au contraire, hein, je dis que on est tous différents, on a des profils différents. Il faut apprendre à mieux se connaître pour savoir où elle est sa valeur ajoutée. Moi, pour moi, j'estimais que je perdais du temps dans les études, donc j'en ai pas fait et j'ai préféré me frotter à
Bien
la vie
sûr.
réelle et aux vrais problèmes.
Alors ça, c'est une
Ça
chose.
m'appartient,
Voilà.
c'est mon propre chemin.
Absolument.
Maintenant, je peux vous dire que très rapidement, moi, mon sujet de prédilection, c'était l'environnement, le développement durable. J'en ai parlé avant que personne n'en parle au Maroc, à partir de 2006. J'ai monté une plateforme qui était la première plateforme sur le développement durable en Afrique, avec trois grands festivals qui s'appelaient Festival africain sur l'écologie et le développement durable. J'étais reconnu comme spécialiste du développement durable au sein de l'Union européenne. J'ai dû gérer un programme sur 9 pays. Et très jeune, parce que j'étais passionné par ce sujet, j'en ai parlé à la radio et je faisais beaucoup de presse à l'époque, ben j'étais le seul consultant qui n'avait pas fait d'études qui pouvait traiter de ces sujets. Et du coup, on m'appelait de partout, alors que je n'ai aucun diplôme, ni en environnement, ni en développement durable. Mais je maîtrisais tellement bien mon sujet, j'avais tellement réponse à beaucoup de questions avec des éclairages pertinents, que les gens m'ont fait confiance.
C'est ça. Mais en même temps, il y a eu un travail de relationnel. C'est-à-dire que ça ne se fait pas...
C'est un travail déjà personnel. C'est-à-dire que si le sujet
vous le maîtrisez, oui.
Là, je fais un passage avec vous. Il suffit que si une personne est passionnée, je ne sais pas moi, d'artisanat, par exemple,
oui.
et que voilà, depuis sa tendre enfance, elle est passionnée par les géométries, les formes, les ambiances, etc., et qu'elle fait juste un passage à la radio où elle parle de sa passion, ben, ça va toucher les gens.
Absolument.
Ça va toucher les gens, on va se dire, tiens, cette personne, on aimerait bien la voir, on aimerait bien la rencontrer, on aimerait bien lui parler. Et ça se fait tout seul après. C'est un cercle vertueux, c'est votre énergie interne, en fait, on revient à l'énergie interne. Finalement, ça commence vraiment par ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si à l'intérieur de vous, les choses sont stabilisées, elles sont claires, elles sont éclairées, elles sont stables, et il y a de la clairvoyance, ben, ça va se ressentir automatiquement. Et là, ça n'a rien à voir avec les diplômes ou avec ce que la société peut mettre comme certificat ou autre.
Mondiez Neber, merci beaucoup d'avoir été ma version homme de femme d'aujourd'hui.
Écoutez, juste une petite information, si je peux avoir 15 secondes.
Bien sûr.
Oui, pour dire que j'organise pour la première fois une retraite, j'ai structuré en fait une série de retraites transformatives en 3 niveaux, et je donne ce premier niveau 1 au Maroc en janvier, à Rabat, c'est le 20-21 janvier à Rabat, ça s'appelle Reconnect, donc reconnexion à soi-même, où j'apprends à mes élèves des choses très simples qui sont comment méditer, comment apaiser son mental, comment gérer ses émotions et comment apprendre aussi à se relaxer pour un peu, on va dire quelque part, éveiller le plein potentiel à l'intérieur de nous. Donc je voulais annoncer cet événement si vous me le permettez.
Avec plaisir, et d'autant plus que comme vous dites, c'est le niveau 1. Beaucoup de personnes ont envie d'aller à la découverte de la méditation, de ses bienfaits, mais ne savent pas forcément comment le faire.
Exactement. Voilà. J'ai conçu tellement ce programme, c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde. Et du coup, j'ai aussi, ce qui est incroyable, c'est que dans mes stages et dans mes retraites, ça va vraiment de 13 à 90 ans. Il y a des grands-mères, des petits-enfants, des adolescents, il y a de tout âge en fait, et c'est ce qui me plaît le plus, c'est de voir cette diversité, que tout le monde puisse en profiter.
C'est à partir du 22 janvier sur 3 jours, c'est ça?
C'est le 20-21 janvier, c'est un week-end.
Pardon, 20-21, ok.
À Rabat, ça dure 2 jours, et donc vous trouverez toutes les informations en tapant mon nom, Mundir Znebar, sur les différents réseaux sociaux.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été ma version homme. Merci Mundir.
Merci beaucoup, merci, au revoir.
Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.